Il est 6h.
Un confinement sera mis en place à compter de ce week-end et pour 3 semaines. Il a pour objectif de faire baisser le nombre de contaminations et protéger aussi le territoire en vue de la rentrée scolaire.
La détresse des professionnels du tourisme en Martinique qui se reconfinent pour 3 semaines, au moins 3 semaines à compter de demain soir, 19h. Dernier conseil des ministres hier, c'est l'heure des vacances pour le gouvernement. Vacances studieuses et franco-françaises, crise sanitaire oblige. L'humanité vit désormais à crédit, le jour du dépassement est atteint aujourd'hui. Toutes les ressources planétaires que la Terre génère en un an ont été consommées. Et puis les JO de Tokyo et une nouvelle médaille pour la France, de l'or en aviron à nouveau pour Laura Tarantola et Claire Beauvais cette nuit. À suivre le regard international de Jean-Sébastien Soldaini et notre rendez-vous d'histoire avec David Castello-Lopez qui nous replonge ce matin aux origines du Tabasco. Très bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Votre premier journal du matin, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. La nouvelle est tombée comme un couperet. La Martinique est reconfinée pour une durée d'au moins 3 semaines. La mesure qui vise à contenir la flambée de l'épidémie prendra effet demain soir à 19h. Un véritable coup de massue pour les professionnels du tourisme, comme l'explique Véronique Bidot-Deschaumes, la présidente de l'UMI, syndicat hôtelier de Martinique.
Après l'annonce, je dois dire que j'étais en compagnie de 2 restaurateurs et d'un hôtelier. On ne voulait pas croire que c'était possible que le préfet ait annoncé un confinement. En plein mois d'août, c'était pour nous une période importante pour pouvoir refaire un peu de trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de haute saison depuis 2 ans. On a eu déjà l'été dernier des périodes de coupure, de confinement, de couvre-feu, etc. Et on ne comprend pas qu'on soit toujours stigmatisé, toujours des restaurants qui sont toujours montrés du doigt comme des démarrages de clusters. Je ne sais pas où on va. Franchement, je ne sais pas où on va parce que ce n'est pas avec 20% de clients qu'on peut continuer à faire tourner nos hôtels et nos restaurants. Donc je pense vraiment d'ici la fin de l'année, il y aura des fermetures. On ne tiendra pas.
La présidente de l'UMI Martinique, jointe par Océane Théard, notait par ailleurs que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Et si la France a franchi le cap des 50% de vaccinés, on est encore loin de l'immunité collective.
Pour convaincre les indécis, les pharmaciens et les médecins s'appuient sur la relation de confiance soignant-soigné, car même dans les centres de vaccination, beaucoup de gens viennent à reculons, Maximilien Carlier.
Asha arrive sur la pointe des pieds. Elle observe les box de vaccination. Sceptique, le vaccin ? Non, pas pour tout de suite.
J'attends un peu, je réfléchis encore. J'hésite, en fait. Il y a beaucoup d'effets indésirables. Il y a beaucoup de cas qui sont décédés. Voilà. Moi, j'ai peur.
La peur à cause d'images entreaperçues sur Facebook, c'est ce qu'elle m'a confié. Jacques est médecin généraliste.
Beaucoup de gens rapportent ce qui est dans les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, quand on leur demande s'ils ont vu, ils vous rapportent toujours les vidéos ou ce qu'ils ont entendu. Mais jamais ce qu'ils ont vu eux-mêmes.
Et il faut pouvoir démentir dans ce cas-là. Mais ce qui revient régulièrement chez les indécis, c'est cette confusion gouvernement, santé publique, selon Élodie, également docteur.
Je trouve dommage les gens qui ont une indécision ou un rejet du vaccin par un rejet de la politique. Ce n'est pas en ne vous faisant pas vacciner que vous allez punir le gouvernement, au contraire.
Protégez-vous plutôt, insiste ce médecin, et après, allez manifester si vous n'êtes pas content, mais au moins, vous serez vacciné. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et la vaccination qui va devenir d'autant plus importante qu'à partir de septembre, seuls les élèves non vaccinés seront renvoyés chez eux s'il y a un cas de Covid dans les classes à partir du collège.
Et la mesure annoncée hier par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a du mal à passer. Séparer les élèves vaccinés et non vaccinés, c'est injuste pour Eugénie, âgée de 15 ans.
C'est pas normal parce que Macron, il a dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Puis au final, on peut même pas aller faire ses courses, on peut plus aller au restaurant, il faut avoir un pass sanitaire. Donc ça devient obligatoire au final, sans vraiment le dire. Et maintenant, les élèves, ils pourront même plus bien travailler, bien progresser à l'école, tout ça, juste parce qu'ils sont pas vaccinés. Mais je trouve ça ridicule. Des gens qui veulent pas le faire, qui sont complètement contre, qui ne pas le faire, ne pourront plus étudier correctement comme moi, juste parce que c'est leur choix. Et c'est pas normal.
La jeune Eugénie au micro Europe 1 d'Océane Théard.
Il est 6h05 et c'est l'heure des vacances pour le gouvernement. Emmanuel Macron a présidé hier le dernier conseil des ministres avant la reprise fin août.
Vacances est un bien grand mot en pleine crise sanitaire. Cette année, la pause estivale sera encore une fois studieuse et franco-française, Louis Dragnel.
Oui, l'ensemble du gouvernement a reçu la consigne d'être joignable et très disponible en cas d'urgence. tous ne profiteront pas de la même légèreté. Le Premier ministre Jean Castex prévoit de faire des allers-retours entre Paris et sa ville de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Il se tiendra en alerte permanente pour suivre de près la campagne de vaccination et la mise en place du pass sanitaire. Même programme pour Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur prévoit tout au plus un gros week-end. Il le sait, les questions de sécurité sont inflammables politiquement, surtout en ce moment. Et c'est la Corse cette année qui attire le plus, avec au moins trois ministres qui ont choisi l'île de beauté, Marlène Schiappa, Gabriel Attal et Franck Riester. Comme à son habitude, le couple présidentiel se rendra au fort de Brégançon dans le Var. Des vacances actives, car ce seront sans doute les dernières pour le chef de l'État avant l'élection présidentielle.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
On y est, je vous le disais, c'est aujourd'hui le jour du dépassement. À compter d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit sur Terre.
Et comprenez que toutes les ressources que notre planète est capable de régénérer en un an ont été consommées. Dans le même temps, des chercheurs alertent sur l'affaiblissement des signes vitaux de la planète. Bonjour, Johanna Chabas.
Bonjour.
Alors, de quoi parle-t-on quand on évoque les signes vitaux de la planète ?
Eh bien, comme pour un être humain où l'on vérifie sa tension, son taux de cholestérol ou son rythme cardiaque, les scientifiques ont mis au point des critères pour s'assurer de la bonne santé de la planète. Il y en a 31, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la température de l'océan ou encore l'état de la banquise. Et cette année, plus de la moitié des catégories, 18, ont atteint des records catastrophique. Les concentrations en méthane sont plus élevées que jamais, les glaciers fondent 31% plus vite qu'il y a 15 ans, et la déforestation en Amazonie est telle que la forêt émet maintenant plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, avec le risque, selon les scientifiques, d'atteindre des points de bascule, comme l'explique Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF France.
Quand on abîme trop certains écosystèmes, quand on émet trop de carbone, derrière, on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus revenir en arrière et on a des effets qui s'auto-alimentent et on ne peut plus rien maîtriser. Et ce fameux point de bascule pour l'Amazonie, il est fixé par certains scientifiques autour de 20-23% de déforestation de tout le massif amazonien. On n'est pas loin.
Autre point de non-retour qui inquiète les chercheurs, la fonte des calottes glaciaires en Antarctique pourrait devenir irréversible et les récifs de coraux pourraient ne jamais être sauvés.
On le comprend, Johanna, la situation est dramatique, mais est-ce que ces chercheurs proposent aussi des solutions pour essayer de remédier à cette situation ?
Oui, ils avancent plusieurs pistes, comme éliminer les énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore privilégier le végétarisme. Mais selon ces chercheurs, le plus important, c'est surtout de réagir au plus vite et de ne plus s'attaquer à chaque symptôme de manière isolée. D'après eux, il faut une politique ambitieuse pour traiter la source du problème, la surexploitation de la planète par les humains.
Johanna Chabas.
Au volet judiciaire, la Guinée équatoriale devient le premier pays à bénéficier du bien mal acquis mécanisme de restitution des avoirs saisis.
Le vice-président du pays a définitivement été condamné en France pour s'être constitué un patrimoine luxueux en détournant des fonds publics. Condamnation à 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende. Marion Dubreuil, tous les biens de Théodorin Obiang lui ont donc été définitivement confisqués.
Exactement, ces biens seront mis en vente par l'État français. Il y a notamment cet hôtel particulier, avenue Foch, 3000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Cinéma, hammam, robinet en or, le tout estimé à 107 millions d'euros. Sarah Brimboeuf, spécialiste des biens mal acquis pour Transparency International France, partie civile dans le dossier de Théodorin Obiang, se félicite de sa condamnation définitive. Point final d'une procédure qui a duré 14 ans.
C'est un message très ferme, très fort, envoyé par la justice française sur ces pratiques, sur le fait que la France ne sera plus bien une terre d'accueil de cet argent sale, de ces fonds publics détournés, puis investis, blanchis en France. On a cette condamnation définitive. On a également maintenant un dispositif spécifique de restitution des biens mal acquis.
Cette procédure de restitution prendra encore plusieurs années. Elle pourra se faire par deux biais, via des appels d'offres à projets ou bien via l'Agence française de développement, avec une préoccupation pour les ONG, s'assurer que cet argent, 150 millions d'euros environ, ce qui correspond au budget annuel de la santé en Guinée équatoriale, soit reversé au profit des Équato-Guinéens.
Marion Dubreuil.
Attention aux ruptures de stock à présent dans les magasins de chaussures.
Tout comme le bois, l'acier ou l'aluminium, le caoutchouc vient à manquer avec la reprise de l'activité économique. De nombreuses filières sont désorganisées, si bien, Maud Descamps, que certains produits deviennent difficiles à trouver en rayon.
Oui, je vous donne un exemple. Sur les étagères d'un magasin spécialisé dans la randonnée dans le centre de Paris, certains modèles de chaussures ne sont plus disponibles. Une rupture de stock momentanée, explique le directeur général du Vieux Campeur, Aymeric de Rorté.
Les difficultés d'approvisionnement de certaines matières un fond qui, effectivement, en chaussures, par exemple, il commence à y avoir des ruptures. Beaucoup de gens, à un moment, nous disaient, c'est la production en Asie, on va fabriquer en Europe. Mais le problème, par exemple, en chaussures, c'est que vous pouvez toujours fabriquer en Europe. Le caoutchouc, lui, il viendra toujours d'Asie. Et aujourd'hui, le caoutchouc est vraiment quelque chose qui commence à manquer.
Depuis le début de l'année, le prix du caoutchouc a flambé, c'est ce qu'on m'a expliqué, au Centre français du caoutchouc qui regroupe une centaine d'acteurs du secteur, plus 25% environ. Toutes les lignes de production n'ont pas repris, m'a-t-on précisé, et la demande est très forte depuis le début de l'année. À cela s'ajoutent aussi des coûts de transport également en hausse. Chez le géant du pneumatique Michelin, c'est une situation qu'on surveille de près. La hausse de la matière première a d'ailleurs déjà été répercutée sur les prix de vente. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année, préviennent les experts. Un casse-tête pour les industriels du secteur qui confient n'avoir aucune visibilité sur les prochains mois.
Maud Descamps.
Et puis on termine avec les JO de Tokyo et je fais un mea culpa. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure dans les titres sur la couleur de la nouvelle médaille française.
Elle est en argent, c'est la 9e médaille remportée par la France, remportée cette nuit en aviron par le duo Claire Beauvais et Laura Tarantola, elle-même.
Oui, et cela dit, vous êtes pardonné parce que c'était à la photo finish pour savoir qui a gagné cette médaille d'or. Alors, on va tout donner, on n'aura aucun regret. C'est ce qu'avait dit Claire Beauvais avant la finale et des regrets. Elle et sa coéquipière, Laura Tarantola, n'en ont pas du tout. Au contraire, un outsider de cette finale du double poids léger. Le couple Beauvais-Tarantola a pris la médaille d'argent derrière les Italiennes. La photo finish, je le disais, a dû départager les quatre premiers bateaux qui se tenaient en moins d'une seconde. D'où la joie de Laura Tarantola devant les caméras de France Télévisions.
Je sais pas du tout combien on est. Enfin, du coup, j'attends de voir sur le panneau. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Ils ont dû se tromper. Et franchement, c'est ouf.
Voilà, c'est ouf. Et après l'heure des garçons hier avec le couple Hugo Boucheron, Mathieu Androdias, cette médaille d'argent est donc le deuxième podium de l'aviron français à Tokyo.
Il y a d'autres chances de médaille aujourd'hui.
Des chances plutôt féminines dans la matinée avec Madeleine Malunga en judo, la championne d'Europe 2018-2020, la championne du monde 2019 également, vient de se qualifier pour les demi-finales du tournoi des moins de 78 kilos. Et puis en fleuret, l'équipe de France, emmenée par Isaura Tibus, a aussi des chances, mais attention, en demi-finale, ce sera un peu avant 7h, les Françaises vont rencontrer les redoutables Italiennes.
Qui sont championnes du monde ou championnes
olympiques
en titre.
Oui, qui ont beaucoup de titres, voilà.
Axel May, du service des sports d'Europe 1, merci beaucoup, c'était le journal d'Émilie Dez. Il est 6h13.